Malgré que j'ai dit que nous pouvions demander au Seigneur des pères et mères, je sentais qu'il y avait une lacune, surtout que je dois m'occuper de beaucoup de monde, et que mon Jean-Bernard avait besoin d'une affection féminine. Mais il avait encore 2-3 ans d'études à faire pour avoir son doctorat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur me parle et me dit, tu dois aider ton fils. Comment? Eh bien, peut-être que il faudrait qu'il se marie et puis que tu les aides matériellement. Peut-être que je pourrais moins donner pour l'œuvre, puisque tout en étant moi-même un ouvrier du Seigneur, j'ai aussi à faire part de ce qui passe par mes mains. Alors le Seigneur me parle, puis un jour dans une réunion de prière, il me dit, cette jeune fille qui est là à côté de toi, qui est ma fille spirituelle aussi, qui est couturière, c'est pas du tout correspondant avec mon fils qui aura fait des hautes études, mais elle est pratique, c'est elle qu'il faut pour lui. Alors je lui parle, je savais qu'elle aimait mon fils. Et puis, elle était tellement bouleversée, elle qui venait de la pauvreté, elle dit, j'ai jamais cru que vous seriez d'accord, oui j'aime Jean-Bernard. Alors j'ai écrit à mon fils qui était chez sa grand-mère, puis je lui ai dit, tu as un sentiment, tu aimes toujours Annie, il y en a qui la connaissent. Hein. Alors lui, il était bouleversé que son père lui dise ça. Bien écoute, si vraiment tu l'aimes, on fera les fiançailles le jour de mon anniversaire, c'est au mois de septembre. Il était sidéré. Et puis, comme je n'aime pas les longues fiançailles, l'année prochaine, vous vous marierez. Vous serez au refuge, puis Annie, tu continueras ton travail de couturière, puis moi je donnerai la différence, hein, pour qu'il puisse vivre. Mais je crois qu'il y a toujours une solution, mais la sagesse d'en haut, mais j'ai dû être corrigé, parce que moi aussi, étant un homme biblique, je disais, on se marie pas avant ceci, avant ça, mais nous sommes maintenant dans des temps très difficiles. Autrefois, on se mariait très jeune, et puis les parents avaient une part dans ces mariages-là. Pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas bibliquement? Alors c'est ce que j'ai écrit à cet ami. Peut-être que tu dois aussi réviser ton jugement, comme moi, j'ai dû réviser le mien. Et puis, peut-être que tu pourras moins donner à ton église, mais tu emploieras cela pour tes enfants, parce que notre église, c'est l'église, hein, c'est les autres. Mais qu'est-ce qui est en premier lieu pour vous? C'est pas gâter vos enfants, mais les aider spirituellement à tenir dans un monde qui fait tout pour les couler. C'est vrai ou c'est? Voyez-vous, c'est ça, se laisser corriger par la parole. Et par la grâce de Dieu, eh bien, tout est bien allé. Mais le Seigneur nous parle, et il y a un prolongement de cette parole dans nos vies. Et voyez-vous, souvenez-vous, on peut parler des cris qui montent vers le Seigneur. Ça, c'est le cri du salaire des ouvriers qui ont été frustrés de leur travail. Ça monte jusqu'au ciel. Mais il y a le cri de Sodome, de ses mœurs relâchées. Ça monte jusqu'au ciel. L'homosexualité, tout ce que vous avez, qu'on veut justifier, les marches d'homosexuels. C'est pour ça que je ne ferai jamais une marche chrétienne. Parce que les homosexuels aussi font leur marche. Puis nous, les chrétiens, on veut faire nos marches. Nous marchons comme le monde, marchez quotidiennement avec le Seigneur, et vous n'aurez pas besoin de faire des marches avec des pancartes pour le Seigneur Jésus. Vous serez authentiquement chrétien, parce que sans ça on vous identifie à tout ce que fait le monde. Mais il semble que les chrétiens n'ont plus de vie personnelle avec le Seigneur, n'ont plus d'inspiration avec le Seigneur, et ils doivent toujours imiter ce qui se fait dans le monde. Tiens, ça réussit pour le monde, ça va réussir pour nous, on va faire ça. Attention, attention. Je ne juge pas, mais je vous dis, revenez à l'Écriture. Parce qu'il y a des choses que le monde peut faire, que le monde fasse toutes les marches possibles, mais il y a des choses aussi que nous devons revoir, et peut-être ne pas imiter dans un enthousiasme délirant qui n'est pas du tout scripturaire. Car souvenez-vous, David, il a cru qu'il pouvait faire comme les Philistins, une marche sensationnelle pour ramener l'arche de l'Alliance, faire un chariot neuf comme les Philistins l'avaient fait. Il a mis l'arche sur un chariot neuf, sans consulter les Écritures, et qu'est-ce qui est arrivé dans sa grande marche et dans sa grande procession pour ramener l'arche de l'Alliance? Alors que chez les Philistins, ça avait réussi, parce que les Philistins, c'étaient des païens. Et on avait attelé deux vaches au chariot neuf, et les vaches ont été assez intelligentes pour aller dans la bonne direction. Si vaches qu'elles étaient, elles sont allées vers Beth-Shemesh, un lieu que je connais bien, et elles sont allées à la frontière d'Israël, à la place où elles devaient aller. Mais quand David, avec toutes ses connaissances, et les sacrificateurs qui ont désobéi alors qu'ils avaient la connaissance de l'Écriture ont fait un chariot neuf, ont mis l'arche, qu'est-ce qui est arrivé? L'arche, elle a branlé. Tandis que quand les vaches conduisaient l'arche, ça ne branlait pas. Et vous savez, les vaches, c'est les vaches. Hein? Eh bien, l'arche ne branlait pas quand c'était conduit par les vaches. Mais quand c'était conduit autrement, l'arche a branlé et un sacrificateur a voulu la retenir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Il ne se moque pas de Dieu. Alors David en a fait une dépression. Il s'est demandé pourquoi. Puis pour finir, il est revenu à la Bible. Puis qu'est-ce qu'il a lu? Que l'arche devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. Il y avait des barres pour porter l'arche. Alors la deuxième fois, ils se sont conformés aux Écritures. Et ça a été une grande fête. Hein? C'est tout différent. Notre inspiration, frères et sœurs, elle doit venir de l'Écriture. Contrôlez tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on vous fait. Contrôlez ça par l'Écriture. Et ne dites pas, ben voilà, oui, ils nous ont dit que les gens qui sont des païens, les incrédules, ils sont plus éclairés que les gens qui vivent dans la lumière. Vous ne pouvez pas sortir ce verset du contexte. Parce que pour justifier qu'on fait comme le monde, on dit ça. Que Jésus lui-même a dit que les gens païens faisaient des choses meilleures que ceux qui sont dans la lumière. Alors imitons les païens? Non. Tenez-vous dans le conseil secret de Dieu et vous serez éclairés et il vous donnera les pensées qu'il veut. Et puis vous avez condamné, vous avez tué le juste, vous n'avez pas, qui ne vous a pas résisté. Ceux qui étaient réellement des chrétiens, au lieu de, quand on les a amenés en procès, ben, ils ne se sont pas défendus parce qu'ils ont eu la pensée, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Ils ont même peut-être été condamnés, mais pour eux c'était dans le programme. Et ils attendaient quoi? Le Seigneur. Ils attendaient le Seigneur. Et c'est ce que vous avez au verset 7. Soyez patients, mes frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Le juste ne vous a pas résisté. Il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. C'est les caractères d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Philippiens 4. Le Seigneur est proche, je m'en remets au Seigneur. Puis alors, on a vu les autres versets, je n'y reviens pas. L'histoire du laboureur, la patience du laboureur, ça doit être aussi la patience du serviteur, et cette vérité que le Seigneur est proche. Alors, continuez de méditer, de repasser dans vos cœurs. Le juge est à la porte. Je m'en remets à toi, Seigneur. Et puis je prends pour modèle de souffrance la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et particulièrement Jérémie, qui est le prophète de ma vocation. Eh bien, il peut dire, moi, je me suis levé de bonne heure et vous enseignant pendant 23 ans. Et il n'a pas vu de fruit. Il pouvait se pendre. Il pouvait être découragé. Il a eu ses moments de découragement. Il a dit, chaque fois que je prêche, je crie. La parole a été pour moi en opprobre. Alors j'ai dit, oh, si je pouvais me faire une cabane dans la montagne et m'y retirer. Mais il dit, j'ai dit, je ne parlerai plus en ton nom. Mais ta parole a été au-dedans de moi comme un feu. Je n'ai pu la retenir, je ne l'ai plus. Je n'ai pas pu la retenir. Et il se laisse faire par le Seigneur. Tandis qu'un autre âgé que j'ai souvent cité, dans un autre temps, en 23 jours, il y a un réveil formidable. C'était une autre période, c'était un autre temps. Est-ce qu'âgé était plus fidèle que Jérémie? Non. Mais Jérémie était à sa place, même s'il ne voyait pas des fruits. Il y a des missionnaires, ma femme pourrait vous le dire, qui ont travaillé en Chine pendant des années, et il semble qu'ils n'ont rien vu. Puis voilà un nouveau missionnaire qui vient prendre la succession, puis tout d'un coup il récolte un tas de fruits. Puis on dira, ah ben ça c'était un homme de Dieu. Mais celui qui était avant, on n'en dit rien. Et c'est pourtant lui qui avait pioché, c'est lui qui avait préparé le terrain. C'est lui qui avait... Et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'attribuer la moisson. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour le Seigneur. Et un jour, le Seigneur manifestera les fruits, et ensemble, nous nous réjouirons, et nous donnerons toute gloire au Seigneur. Je ne crois pas qu'il y ait des difficultés, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Le juge est à la porte, donc... Prenez mes frères, pour exemple, ces modèles qu'on a cités, en particulier Job. Et puis maintenant, pour les dernières exhortations, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, c'est clair. S'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Maintenant, s'il est malade, bien qu'il appelle les anciens de l'Église, mais nous sommes obligés de constater que les anciens des Églises ne sont pas préparés. Et puis, la plupart du temps, quand il y a un malade dans une église, on pense qu'on doit appeler des pasteurs, des gens un peu exceptionnels, n'est-ce pas, pour venir faire cette imposition des mains. Mais c'est faux. C'est les anciens de l'église. C'est ceux qui ont une responsabilité dans les églises. Ce n'est pas des hommes extraordinaires. Un jour, en France, ils ont voulu prier pour une femme de pasteur, et puis il y avait des prédicateurs itinérants qui étaient là, mais qui avaient une grande réputation. Et puis alors, ils les ont convoqués et ils ont fait l'imposition des mains, l'onction d'huile à la femme. Puis elle n'a pas été guérie. Alors, le pasteur, après, je passais dans sa paroisse, il me demande pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été guérie. Pourtant, c'était des hommes de Dieu. Alors j'ai prié pendant la nuit, j'ai dit, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Mais ils n'ont pas, appelé les anciens. C'était des prédicateurs d'ailleurs. C'était pas des gens de son église. C'était pas des personnes qui étaient responsables dans l'église. Et pourquoi? Mais parce qu'on se dit, ils sont trop petits ceux-là. Il faut toujours des grands bons hommes. Qu'est-ce que c'est les grands bons hommes? Soyons carottes. Ça se montre pas trop. Alors, ce qui compte, bien, c'est qu'on prépare aussi les frères à ce ministère. Parce que, vous voyez, l'Église romaine en a fait le sacrement des malades, bien sûr, et c'est vrai aussi dans un sens, mais en final, c'est devenu quoi le sacrement des mourants? Et on arrive à nous dire que si on fait encore le sacrement un quart d'heure après la mort, que ça suffira. Mais pas, on en arrive à des aberrations. C'est pas après la mort que la personne aurait besoin d'être aidée, c'est avant. Et s'il y a une confession à faire, c'est avant. Alors là, je pourrais vous raconter une foule d'expériences. Mais qu'il appelle les anciens, et quand tout à coup un malade... Et puis, c'est pas le pasteur ou nous qui disons, on pourrait venir. Il faut que la personne soit travaillée. Elle-même. C'est comme pour les anciens. On n'essaye pas de nommer des anciens, mais quelqu'un a le désir de devenir ancien. Ils sont cette responsabilité et il aspire à la surveillance. Et alors, aspirant à la surveillance, il sait quels sont les caractères qu'il faut avoir pour être un ancien et il prie pour en avoir les caractères. Et alors, qu'est-ce qui se manifeste? Les gens le voient. Les gens voient que cette personne qui n'a pas dit qu'elle voulait être ancien, mais en a les caractères. Alors, quand il est question de nommer ces personnes, eh bien, il y a un consensus qui se fait dans toute l'Église, et ce n'est pas des votations ou des personnes qui vont essayer d'avoir des voix pour elles, alors que d'autres en donneront à d'autres. Mais il y a une unité de l'esprit dans ce domaine-là. Et alors, quand les anciens seront peut-être appelés, eh bien, ça fera un nettoyage en eux, parce que pour aller prier pour un malade, il faut d'abord avoir confessé nos propres fautes à nous, c'est ce que j'ai toujours vu, Et puis alors, quand on est autour du malade, le malade, s'il a commis un péché, peut-être qu'il le confesse, il en est libéré, et alors l'onction d'huile, c'est pas du raté. Puis si on vous dit, oui, mais quelle huile est-ce qu'il faut? On m'a téléphoné une fois, un grand professeur de théologie qui dit, il nous tombe une tuile sur la tête. Je dis, quoi? Eh bien, il y a un malade de notre église qui demande l'onction d'huile. On n'a jamais fait ça. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous emploieriez? Je dis, quand on est au midi, on emploie de l'huile d'olive et des oliviers. L'onction d'huile. Qu'est-ce que c'était l'huile là-bas? On complique tout. Alors, oui, mais comment est-ce qu'on fait ça? Et ils n'ont jamais fait ça. Puis la quantité d'huile, une immense bonbonne. Nous amis, on est ridicule. Absurde. Priez. Le Seigneur vous montrera. Eh bien, là, il y avait trois pasteurs qui étaient vraiment, qui avaient le caractère d'anciens, mais ils étaient dans la même église. Ils y sont allés. Ben, je vous dis, ils n'étaient pas du tout préparés, puis c'était une maladie incurable. J'ai prié de mon côté, depuis ma ville où j'étais, après qu'ils m'aient téléphoné, aussi. Et ils sont allés, et le malade a été guéri d'une maladie incurable. Mais ça a fait tout un réveil dans l'église. Le Seigneur est prêt à manifester sa puissance. Mais il faut que nous, nous soyons préparés. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Et alors la confession que nous avons oubliée, et maintenant, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu des exagérations dans la confession auriculaire, eh bien, hélas, on a abandonné cette question de confession, de sorte que les gens, maintenant, chez qui est-ce qu'ils vont se confesser? Chez le prêtre? Non, ils font presque plus de confession. Chez le pasteur? Il n'a pas le temps, il est pris par des comités. Chez le psychiatre? Puis le psychiatre n'est pas même chrétien. Puis il vous embobine. On peut dire la même chose de moi. Faites attention, chers amis. Revenez au Seigneur. Confessez vos fautes les uns aux autres. Alors, si quelqu'un vient et me dit, ben voilà, voilà dans quoi je suis tombé. Est-ce que je m'en vais le répéter? Je vois qu'il y a vraiment humiliation. Alors, c'est cela. Si je vois qu'il n'y a pas humiliation, que c'est simplement pour soulager, je retiens son péché. Celui à qui vous retiendrez les péchés seront retenus. Parce que ce n'est pas vraiment une humiliation. Et je sais qu'il va recommencer. Alors je ne vais pas lui donner une espèce d'absolution. Pas du tout. Je lui dis, ton péché demeure. Mais si je vois qu'il y a vraiment humiliation, eh bien, on peut le libérer et lui dire, le Seigneur t'a pardonné. Il a aussi porté ce péché pour toi. Mais on ne va pas raconter ça à tout le monde. Comprenez-vous? Il y a un secret professionnel. J'aime pas dire professionnel, mais il y a un secret du sanctuaire. Et il y a des gens qui sont libérés quand ils peuvent s'ouvrir. Et cela, vous savez, en 50 années de ministère, et dans plusieurs pays, on rencontre bien des choses. Et alors, en finale, après l'exemple d'Élie, mes frères, si quelqu'un s'est égaré parmi vous de la vérité, qu'un autre y ramène. C'est une tâche, celle-là. Et c'est encourageant. Mais comment ramener une âme qui s'est égarée de son chemin? Mais il faudra la patience, il faudra la persévérance, puis il faudra surtout l'exemple. Et c'est ce pardon que la personne sent. Et là, vous pourriez prendre d'autres textes. C'est une femme, peut-être, qui amène finalement son mari, non pas en l'assassinant de reproches, mais peut-être par un regard où il sent toute sa souffrance. Mais aussi par cette certitude qu'on l'attend encore. Le Seigneur peut faire des miracles. Vous avez des questions? Ce soir, nous aurons donc, si j'ai bien compris, donc une réunion de témoignages autour d'un feu de camp. Mais vous aurez l'occasion aussi de dire peut-être ce qui vous a touché dans ce chapitre. Moi, je ne parlerai pas, mais... sinon peut-être une introduction simple, mais si quelque chose vous a touché, eh bien vous pourrez encore le communiquer, ou alors, plus exactement, ce qu'a été pour vous ce camp, si vous voulez donner gloire au Seigneur. Et je vous dirai au revoir au souper, parce que je risque de m'envoler et de ne plus vous voir, de sorte que je ne voudrais pas que quelqu'un pense que je l'ai oublié. Vous restez dans nos cœurs, à la vie et à la mort, comme le dit l'apôtre Paul. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois te bénir pour cette merveilleuse épître de Jacques, où tu nous as encore recommandé de ne pas faire de serment, de ne pas nous engager, comme les proverbes nous le disent, de ne pas cautionner et tant d'autres choses que nous faisons si souvent, plaçant des fois nos familles dans des situations épouvantables. Tu voudrais que nous ayons une vie heureuse, même au travers des tribulations. Mais ce que nous reconnaissons, c'est que nous créons nous-mêmes nos malheurs, parce que nous désobéissons à ta parole. Accorde-nous de comprendre que retrouver le premier amour, c'est obéir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et tu nous dis que tes commandements ne sont pas pénibles. Nous te remettons ce camp, cette semence qui a été jetée. Nous te remettons chaque âme en particulier, selon ses besoins. Et nous te demandons de les bénir de ta bénédiction et de nous donner peut-être encore une parole pour les enfants, une parole qui nous marque et qui nous laisse un exemple que nous pourrons suivre et qui sera en bénédiction pour toute notre vie. Nous te le demandons, Seigneur Jésus, toi qui restes le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Commençons vraiment cette rencontre qui est la dernière étude biblique ensemble, que tu nous donnes de dire ce que nous devons dire et que nous oublions ce que nous pourrions dire, mais qui n'est pas d'intérêt pour les âmes qui sont ici. Nous voulons te supplier que ces dernières paroles aient une correspondance avec un besoin précis et personnel. Nous nous sentons complètement incapables par nous-mêmes de dire quoi que ce soit. Mais alors nous voulons être ce canal bien abouché au trône de la grâce et nous te demandons que de ce trône de grâce, l'eau, le fleuve d'en haut puisse vraiment couler et que rien n'y soit ajouté, qu'il n'y ait pas de pollution et que les cœurs puissent recevoir cette eau vive que tu donnes, que tu as promis, mais que ce soit des cœurs ouverts. C'est la grâce que nous te demandons, que ça ne tombe pas dans des citernes que nous aurions nous-mêmes creusées et qui sont déjà polluées, mais que ça tombe dans des cœurs purifiés par ta grâce, dont les péchés ont été confessés, dont les soucis ont été apportés au Seigneur comme étant des péchés. Parce que quand nous nous mettons en souci, tu nous as appris que nous péchions. Parce que tu dis, ne vous inquiétez de rien. Et si nous nous inquiétons, nous péchons. Alors donne-nous de savoir rejeter tout souci et le fardeau qui peut nous accabler pour te faire éperdument confiance dans l'assurance que toi tu interviendras. Tu nous l'as montré. Visiblement, tu nous as donné des grâces visibles à nous qui parlons de foi. Donne-nous des cœurs reconnaissants et que nous puissions continuer d'être assurés que quand nous croyons ta parole, tu manifestes que nous ne nous sommes pas trompés et qu'elle est vraie. À ton honneur. Toute gloire en Jésus. Amen. Vous avez certainement lu ce chapitre 5. C'est vrai ou c'est faux? Tous n'ont pas eu le temps. Alors, comment ? Vous n'avez pas pris le temps. Voilà un type sincère. Un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Il avoue ne pas l'avoir lu et il le dit. Alors, vous me pardonnerez si j'en fais la lecture. Hein. Et puis, vous qui l'avez déjà lu, vous réécouterez. À vous maintenant, riche. Si on lit ce premier verset, on dit, j'ai pas besoin de lire, je suis pas riche. Ça ne me concerne pas. Mais vous avez entendu hier qu'il y a une pauvreté, Stella nous l'a fait remarquer, j'espère que vous avez écouté, qu'il y a une pauvreté qui n'est pas nécessairement matérielle, mais qui est spirituelle. Être dormir fait devenir pauvre, nous a dit Stella. Et c'est vrai. Quand on sommeille spirituellement, on s'appauvrit spirituellement. Mais c'est toujours la faute du pasteur, ou du prêtre, ou de notre église, ou des anciens. Nous n'avons pas à dormir. Nous avons à nous réveiller. Mais attention! Dormez, oui, prenez les heures nécessaires à votre sommeil, parce que si vous dormiez bien, vous seriez réveillé pour écouter la parole. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Dans ces premiers versets, où nous trouvons des répréhensions sévères adressées aux mauvais riches, nous apprenons que le jugement approche. Vos richesses, verset 2, sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Ça ne rapporte plus autant. Hein. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Parce qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir vivre dans les voluptés et les délices. Ça coûte cher la vie du monde. Une vie mondaine, ça coûte cher. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ça, c'est la première partie. Puis, depuis le verset 7 à 11, vous avez des consolations pour les pauvres et les opprimés et diverses exhortations. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, Jacques aussi croit que le Seigneur va revenir. Malgré que ce n'est pas une épître doctrinale, comme les épîtres de Paul, qui ont toujours à peu près la moitié de doctrine et puis la moitié d'exhortation pratique. Dans Jacques, c'est mélangé. Hein. Mais il y a peu de doctrine, au fond, dans Jacques. Mais il y a la doctrine essentielle. Le Seigneur vient. Et quand on est sûr que le Seigneur vient, eh bien, on voit les choses d'une façon toute différente. Soyez patients, frères. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire sa seconde venue. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Donc il ne récolte pas les jours où il a labouré. C'est pourquoi je ne cherche pas une récolte dans ce camp. Dans ce camp, nous avons surtout labouré. Dans ce camp, nous avons surtout brisé des mottes. Dans ce camp, nous avons cherché à ce que la terre soit prête à recevoir une semence. Et nous avons essayé de planter avec douceur cette semence dans vos cœurs. Mais je ne prétends pas avoir une moisson. Je pars, ce n'est pas que je vois quelque chose qui compte, mais je sais que la semence est dans vos cœurs. Et je fais éperdument confiance au Seigneur qui a mis la vie dans cette semence pour que cette semence germe et produise du fruit. Et je m'attends au Seigneur qui fait les saisons et je prends patience jusqu'à ce que il donne aussi les pluies de la première et de l'arrière saison. La pluie de la première saison, c'est celle qui fait germer, et la pluie de la dernière saison, c'est celle qui fait gonfler le fruit. Il faut les deux pluies. Et quand on est en Orient, on voit très bien cela. Il y a la pluie du printemps, puis après, plus de pluie, hein, et puis ensuite, on attend la saison des pluies. Au fond, le laboureur et les agriculteurs, ils comptent sur ce Dieu qui donne la pluie. Et vous me direz, bon, on sait bien que ce n'est pas Dieu qui donne la pluie, on est des scientifiques modernes. La pluie a-t-elle un père? Lisons-nous dans le livre de Job. Est-ce que vous êtes allé au trésor de la grêle qu'il réserve en vue du jugement? Quand la grêle ne tombera pas sur le monde comme des œufs de pigeon ou comme des balles de golf ou de tennis, mais des grêlons qui auront le poids d'un homme, ça écrase. Hein. Puis vous me parlez de votre crainte des armements de M. Reagan ou de Gorbatchev. C'est pas de cela que vous devez avoir peur. Laissez ces hommes tranquilles, priez pour eux, mais vivez dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin des armements nucléaires pour faire son œuvre et pour parler. Il a ses fléaux. Est-ce que vous les connaissez, les quatre fléaux de Dieu? Je ne vais pas sortir de mon sujet, mais je vous dis, il y a tout dans l'Écriture. Et c'est beau de pouvoir s'attendre à Dieu pour la pluie. Verset 8. Alors, vous aussi, puisque vous avez l'exemple du laboureur, vous aussi, soyez patients. Le laboureur, il doit être patient. Et vous savez, il y a des laboureurs qui ne sont peut-être pas convertis, hein, mais qui sont patients. Tandis qu'il y a des chrétiens convertis, qui sont même des prédicateurs, et qui brûlent d'impatience. Parce qu'ils veulent voir tout de suite des résultats. On n'est pas appelé par Dieu pour voir des résultats. C'est lui qui donne les résultats. C'est pourquoi je dis souvent, les résultats sont au Seigneur. Et là, on ne se trompe pas. Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Et c'est à son avènement qu'on verra ceux qui y sont vraiment. Et comme on l'a dit souvent, il y a les trois surprises. C'est qu'à son avènement d'y être, ce sera une grande surprise pour nous parce qu'on se dira comment est-ce qu'il a pu m'aimer à ce point-là. Mais quand on n'y verra pas tous ceux qu'on y avait mis, nous, on se dira mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était des apparences. Et quand on y verra tous ceux qu'on avait envoyés en enfer, on se demandera si on veut rester. Hein? S'il y a les vrais sauvés, qui ont peut-être été des brigands et tout ce que vous voulez, mais qui se sont donnés au Seigneur. Puis vous, vous ne le saviez pas. Alors, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est proche. S'il est à la porte, c'est comme Jacques qui était à la porte pour nous donner l'exaucement que nous avions demandé au Seigneur, ensemble. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alors, ça c'est une exhortation à lire quoi? Pour qu'on puisse les prendre pour modèle. Où est-ce qu'ils sont les prophètes, surtout? Dans l'Ancien Testament. Hein? Quoi qu'il y ait des prophètes aussi dans le Nouveau. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voilà de nouveau une réminiscence du sermon sur la montagne. Vous avez entendu parler de la patience de Job. On l'a pris pour père, hein, comme exemple de père. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Qu'est-ce qu'il lui a accordé? Le double de tout ce qu'il avait. Hein. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La fin, c'est pas sa mort, hein, mais c'est la dernière partie de sa vie. Après toutes ces épreuves, il a eu le double et il avait les plus belles filles du monde. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a agi ainsi? Car il est plein de compassion, et vous, et moi, et il est plein de miséricorde. Notre Dieu est un Père miséricordieux et plein de compassion. Et alors, verset 12. Depuis le verset 12 au verset 20, c'est la conclusion et les dernières exhortations. Je vous ai dit une erreur au début de cette retraite, parce que j'avais dans l'idée des 618 versets que nous avions étudiés l'année passée. Et je vous ai dit, et ma langue a fourché, qu'il y avait 118 versets dans l'Épître de Jacques. Non. Il y en a 108. Bon. Alors, excusez-moi, j'ai pas voulu faire une erreur ni ajouter à l'écriture. Il y en a 108. Mais c'était mon 618 qui m'a fait dire cela. Alors, je m'en confesse, et il y a donc une erreur dans l'enregistrement. Et il y aura bien des gens qui cherchent la petite bête, qui diront, c'est un faux docteur. Il a ajouté 10 versets à l'épître de Jacques. Et on ne saura que ça, hein, de cette cassette. Alors, il faut aller jusqu'à la fin, tu as raison François, il faut aller jusqu'à la fin, parce qu'on s'en juge trop vite. C'est encore dans l'épître de Jacques. Alors, verset 12. Avant toute chose, et ce serait très intéressant de prendre toutes les avant toute chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. C'est très grave une parole. Alors, il nous faut faire attention, c'est le même enseignement du Seigneur, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le oui qu'on a dit devant l'officier d'état civil, sans se marier au civil, le oui qu'on a dit devant l'officier d'état civil, on l'a dit devant Dieu. Il n'y a pas un oui civil et un oui religieux. Si on va à l'église ensuite, ou pour demander une bénédiction, c'est pour recevoir une bénédiction, c'est pour qu'on prie pour nous. Mais le oui qu'on a dit, selon la loi, devant la loi, c'est un oui qui compte. Et il ne faut pas dire, oh ben moi je me suis marié civilement, je peux me divorcer, et puis il n'y a pas de conséquences. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce qu'un vrai chrétien, il reconnaît que les autorités ont été établies par Dieu. Et il se soumet aussi aux autorités. Alors, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il pleure. C'est ça? Il y a des pleurs de joie, c'est vrai. Mais qu'il chante des cantiques. Pourquoi est-ce qu'on ne chanterait pas un cantique? Mais qu'est-ce que tu as, toi, que tu chantes un cantique? Mais je suis dans la joie. Il n'y a même pas besoin de le dire. Tu es comme ça joyeux, ça va? Oui, oui. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ça arrive aussi. Bien qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, parce qu'on n'est pas toujours malade parce qu'on a commis des péchés, mais il est possible qu'il y ait un péché qui n'ait pas été confessé, que le Seigneur voudrait nous libérer et qu'il permet qu'on ait un temps d'épreuve qui nous amène à reconnaître cette faute. Et alors on ne demande pas simplement la prière pour être guéri, mais on confesse son péché. Et puis alors les frères peuvent prier pour nous. Mais c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation à personne, de peur qu'on ne participe à leur péché. C'est pourquoi on ne peut pas faire des grandes manifestations. Enfin, je sais qu'on en fait, mais c'est à leur responsabilité. Ou comme je disais, quand je demandais à ce frère qui imposait les mains à tout le monde, j'ai dit, est-ce que tu as vraiment le don de guérison? Il m'a dit, il faut bien qu'on s'essaye. Alors essayez-vous. Vous voyez la légèreté qu'on a dans les choses divines. Alors, si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, ne pensez pas qu'il va vous prendre au sérieux. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, ou littéralement c'est l'un à l'autre. Ce n'est pas nécessaire de publier cela à tout le monde. Mais il y a un ministère de confession des péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, ou l'un à l'autre, comme dit Darby, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La fervente prière du juste a une grande efficace. Et là, il nous est donné un exemple, de nouveau, comme on a eu l'exemple du laboureur au sujet de la patience, et l'exemple de Job. Eh bien maintenant, on nous donne l'exemple d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Ne pensez pas que nous sommes des hommes extraordinaires. Nous avons exactement la même nature. Nous sommes capables des mêmes fautes. Et c'est Élie qui a pu prier d'une façon si formidable pour que, après 3 ans et demi, qu'il n'y avait pas eu de pluie, la pluie vienne, et il était exaucé. Eh bien, quelques jours après, parce qu'une femme qui s'appelait Jézabel, la toute peinte, là, elle lui a dit qu'elle n'aurait pas de répit qu'elle l'ait tuée, il a eu peur de cette femme, il en a eu des maux de ventre, et il s'est sauvé, il a fait un long chemin jusqu'à Beersheba depuis la Samarie, et puis là, il a continué à travers le désert, et puis il était tellement fatigué et épuisé d'une marche qui durait 40 jours, qu'il s'est couché sous un genêt, puis il a dit, Seigneur, fais-moi mourir. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Lui qui avait été exaucé d'une façon si extraordinaire. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Reprends-moi. Puis il s'est endormi sous son genêt, dépression nerveuse complète. Et alors, il a fallu qu'il y ait un spécialiste du ciel qui vienne, puis qu'il lui frappe sur l'épaule. C'était un ange. puis il s'est réveillé, et puis il a vu une galette toute prête, un gâteau, et puis de l'eau, et l'ange lui dit de manger, car le chemin est long pour toi. Et alors il est ranimé, mais il se rendort. C'est pourquoi vous avez aussi le droit de dormir. Il en donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. L'ange ne lui a pas dit tout de suite, continue, mais il a mangé, il s'est rendormi. Et puis, de nouveau, réveillé, et de nouveau, mangé. Mange, car le chemin est long pour toi. Et avec la force qu'il reçut par cette nourriture, il a pu aller jusqu'au rocher d'Horeb. Et c'est là que le Seigneur l'attendait pour parler à son cœur. Mais vous voyez, cet homme qui allait être enlevé au ciel dans un chariot de feu, il a eu ces moments de découragement. Et c'est pourquoi j'aime tellement ces hommes de Dieu, ces hommes de l'Écriture, parce qu'ils nous sont vraiment montrés dans leur complète nudité, dans leur complète humanité. Ils n'ont pas d'auréole, ils sont là comme nous autres, avec leurs moments de défaillance. Et puis, le Seigneur a pitié d'eux, parce qu'il nous suit constamment de son regard, même si nous sommes au désert et que nous frémissons en pensant qu'une bonne femme, toute fardée, envoie peut-être ses troupes pour nous détruire, alors que c'est elle qui va être défenestrée. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est ce que nous lisons en étudiant les rois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, vous pouvez compter combien de fois dans l'épître de Jacques il est dit « mes frères » ou « mes frères bien-aimés ». N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'exhortations dans cet épître. Il n'y a que 108 versets. Mais combien est-ce que vous trouvez d'exhortations? Je ne vais pas vous les dire, mais il y en a au moins 54. Il y a 54 exhortations précises dans l'épître de Jacques. Donc vous voyez, on n'a fait qu'effleurer cet épître. Je n'ai pas la prétention de vous avoir donné beaucoup. Je n'ai fait qu'effleurer ces vérités. Je ne vous en ai fait parvenir qu'un faible murmure de choses absolument glorieuses. Je n'ai pu vous en faire passer qu'un faible murmure. Et de cette lumière intense qui devait vous éclairer, je ne vous ai donné que des étincelles. Quelques petites étincelles, c'est tout. Hein. Mais alors, une étincelle peut allumer un grand feu. Alors souvenez-vous que si vous êtes parti avec une étincelle, ça peut s'enflammer chez vous. Attention de ne pas passer au feu. Ou heureux, et heureux ceux qui passeront au feu, car ce feu de Dieu, il ne consume pas les épines. Vous dites, moi je suis une épine, mais le Seigneur ne te consumera pas. Même là, Saint-Benoît du Lac, hier, on regardait certaines choses. Il y avait un beau texte, qui n'est pas un texte biblique, mais qui est une vérité quand même. Qu'est-ce qu'elle disait? Au lieu de vous plaindre que les roses aient des épines, louez le Seigneur, bénissez Dieu, que les épines aient des roses. C'est bon, ça? Vous voyez qu'on peut s'instruire partout, que les épines aient des roses. C'est ça qui est beau. Hein? Alors il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, ça c'est un verset qui devrait vous empoigner les entrailles, et qu'un autre l'y ramène. Et ne pensez pas, oh, faudrait qu'il y ait un homme extraordinaire qui vienne faire des réunions pour ramener ou mon mari ou ma femme ou que sais-je encore. si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà comment se termine l'épître de Jacques. Alors, mes amis, vous êtes plus confortables? Bien. Alors, j'espère ne pas trop vous torturer, mais on va reprendre maintenant quelques passages, parce que ça mérite d'être dit. À vous maintenant, riches. Alors, vous vous dites automatiquement, alors, tous les riches, faut les condamner? Mais pas du tout. Il faut voir quelle sorte de riches le Seigneur vise. Et c'est pourquoi chaque verset de l'Écriture doit être lu dans, non seulement dans son contexte de l'épître de Jacques, qui est le commencement et la fin, mais aussi dans le contexte de l'Écriture elle-même. Des riches, il y en a eu beaucoup. Abraham était riche. Il avait de grandes richesses. Et puis, non seulement Abraham, mais vous pourriez continuer à travers tout l'Ancien Testament, vous voyez que beaucoup de croyants étaient des hommes riches, tels que Job était extrêmement riche. Il a tout perdu, mais il a eu le double après. Donc Dieu n'est pas contre les riches. Et puis, vous avez les mages d'Orient, qui étaient des gens riches, et que le Seigneur a convoqué aussi bien que les pauvres de Bethléem pour aller adorer son enfant. Et le Seigneur lui-même, il était riche, mais il s'est appauvri pour nous enrichir. Il était le pauvre qui avait de grands biens. Sur la terre, hein, on le trouvait pauvre. Il était assisté même par des femmes. Des femmes l'assistaient de leurs biens. Les femmes qui avaient été guéries par lui et qui l'ont suivi de Galilée jusqu'en Judée et qui ont assisté à la crucifixion, qui ont été les premières au tombeau, eh bien, nous avons parlé hier de Marie qui était riche. Marie de Jérusalem était une femme riche. C'était donc la cousine, la sœur de Barabbas, qui lui aussi était un homme riche, mais qui avait trouvé bon de vendre une de ses terres, tandis que Marie, elle avait gardé sa maison. Mais que Barabbas vende une de ses terres, c'était très bien. Mais qu'un Ananias, qui avait aussi une terre, essaye d'imiter Barnabas, eh bien, c'était faux, parce que Dieu ne demandait pas à tout le monde de vendre ses terres. Mais comme ça avait fait très bien que Barnabas vende sa terre et apporte le prix aux pieds des apôtres, voilà notre Ananias avec sa femme Saphira qui disent « Nous aussi on veut être spirituels, on veut vendre notre terre. » Mais au dernier moment ils disent « Mais on va en garder une partie, hein, une partie de l'argent qu'on a eu, parce qu'il faut garder une poire pour la soif. » Mais ils ne le disent pas et ils ont l'air de faire le même geste qui ne leur était pas du tout demandé. Et c'est ce que Pierre leur dit. Tu as vendu vraiment ton champ pourtant? Et il ment. C'est pas à moi que tu mens, c'est au Saint-Esprit. Le diable a mis le mensonge dans ton cœur. Si tu voulais garder cette terre, tu avais qu'à la garder. Dans l'Église primitive, ils avaient toutes choses en commun, mais c'était quelque chose de volontaire. On n'imposait pas aux gens de vendre leur terre. Alors Marie, qui était la parente intime de Barnabas, elle avait gardé sa maison, son jardin et tout cela, alors qu'elle n'avait qu'un fils, Jean-Marc, et elle a pu mettre sa maison au service du Seigneur. Tandis que si vous n'avez pas de maison, ou que vous recevez seulement les gens dans votre maison pour une réunion, ou que vous devez louer une salle, vous pensez à bâtir une maison. Alors, si vous vouliez être comme ça, sectaire et littéraliste, vous ne devriez pas bâtir de maison. Comprenez-vous? Pas même une salle. Mais pourtant, l'hiver, on ne peut pas aller sur la place publique pour se réunir. Il nous faut quelque chose. De sorte que, vous voyez, l'Écriture nous montre qu'on a une sagesse qui vient d'en haut et qui nous donne de la modération en toutes choses. Alors, ne dites pas, parce que vous avez lu, à vous maintenant riches. Oui, mais certains riches. Et qui étaient ces riches? C'étaient les propriétaires terriens, peut-être juifs, mais pas convertis, qui employaient leurs coreligionnaires juifs, mais chrétiens, hein, qui s'étaient convertis au christianisme, et qui se permettaient de leur donner des salaires de misère, hein, et qui s'enrichissaient avec le travail des autres. Alors qu'un riche qui est vraiment au Seigneur, il a la pensée de faire participer à ses richesses tous ceux qu'il rencontre, et surtout ceux qu'il emploie. C'est quelque chose de détestable et d'abominable de voir un chrétien qui fait un grand don à l'Église parce que ça fait bien et on sait qu'il donne, et qu'il a des employés qu'il paye misérablement. Il n'y aurait jamais eu les syndicats si les patrons chrétiens, authentiquement chrétiens, avaient compris qu'ils devaient être des maisons pilotes, donner un salaire équitable à leurs ouvriers, que leurs ouvriers ne soient pas des crèves-la-faim, et qu'ils aient peut-être part au bénéfice, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites quand on est conduit par le Seigneur. Il nous donne des pensées, il nous inspire, et il nous permet de faire le bien. Mais, quand il y a 48 ans, je prêchais sur ce texte dans une église où il y avait des patrons et des ouvriers, j'ai risqué déjà là d'être fusillé, et on a écrit dans tout le pays de France que Racine, c'était un dangereux communiste, qui ne prêchait pas la croix, mais qu'il prêchait pour les ouvriers. Or, j'avais parlé aussi bien des responsabilités de l'ouvrier que des responsabilités du patron. L'ouvrier ne travaille plus pour le patron, mais il travaille pour le Seigneur. Et puis, le patron, il voit dans l'ouvrier le Seigneur. Et il donne un salaire comme si c'était au Seigneur qu'il le donnait. Parce que le Seigneur a été un ouvrier. Alors comprenez-vous, mais on veut la parole, on aime la parole, on aime qu'on décrive la personne du Seigneur, et puis toutes sortes de choses, n'est-ce pas, pour contempler la face bénie de notre Seigneur. Alors on s'exalte, on a des beaux chants, tout ce que vous voulez. Et dans la pratique, quand on sort de là, on est aussi détestable qu'avant. Et le monde le sait. Et alors, c'est ça qui est très grave. De sorte que les riches dont il est question, ce ne sont pas les riches qui sont dépendants du Seigneur, auxquels le Seigneur a confié des richesses, et peut-être parce qu'il leur a confié des richesses, parce qu'ils savent les gérer. Et ils savent manipuler l'argent, mais non pas pour opprimer ou pour s'enrichir eux-mêmes, ils savent bien qu'ils n'en porteront rien. Ils n'en porteront rien. Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, je rentre au sein de la terre, même si on met une redingote. Hein. Et puis si au salon mortuaire, on dit, quel bel habit. Puis il a encore ses lunettes. On est dingue. Mais voyez-vous, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre par l'esprit de la parole. Parce que si j'ai mis mon cœur à mes richesses, eh bien, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous savez quelle est la crise économique, vous savez que des grands de ce monde se demandent comment ça va tourner, que le monde va à la faillite, que beaucoup de pays vont aller vers la faillite, les pays sous-développés ne peuvent pas, ou en voie de développement, ne peuvent pas rembourser les dettes qu'ils ont, de sorte que ceux qui ont essayé de mettre de l'argent là pour gagner le plus d'intérêt possible, eh bien, ce sont des déçus. Et puis, ils dorment mal. Alors, ils consomment du Valium et de toutes sortes de somnifères pour avoir un peu de sommeil. Parce que les richesses, hein, ça cause beaucoup de soucis. Parce qu'on a peur de les perdre. C'est dit dans Timothée, cela. Alors, vous voyez, les malheurs vont fondre sur vous. Si vous avez mis votre confiance dans les richesses, c'est le veau d'or. Et le veau d'or ne peut vous amener que la malédiction. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Oui, on peut, grâce aux richesses, se mettre de beaux vêtements. Mais comme le disait le père de Saint-Benoît, là, eh bien tout ça, ça se détruit. Puis on finit quand même dans un cercueil, qui disait. Alors, c'est vrai, ben, c'était l'épître de Jacques. Votre or et votre argent sont rouillés, ça rapporte plus. On va à telle bourse, on est préoccupé. Il y a une jeune fille qui me disait, moi, mon premier travail le matin, j'ouvre le journal et je regarde la cote de l'or. Parce qu'elle travaille pour son père. Et alors on vend l'or, on achète, etc. Et c'est ça son premier travail. Et on est chrétien pour autant. C'est ça votre occupation. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille célèbre en témoignage contre vous. Parce que... Qu'est-ce qui se rouille? C'est ce qu'on laisse, là. Travailler, et ça se nettoiera. Travailler jusqu'à ce que je vienne, dit le Seigneur. Il confie des mines, pas pour qu'on les enterre dans la terre, qu'on les mette dans la terre, mais qu'on travaille avec ça. Avec le peu que Dieu nous a donné, nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et alors, au lieu de capitaliser, eh bien, nous allons au jour le jour, et nous voyons que Dieu... pourvoit. Car vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Et vous savez, on ne devient riche dans les derniers jours qu'en appauvrissant les autres. Vous êtes sûr de cela? On ne devient riche qu'en appauvrissant les autres, quand ce n'est pas le travail. Quand c'est les questions de bourse et de toute autre chose, eh bien, il y en a qui perdent. Parce qu'il n'y a pas plus d'argent. Hein. Mais ça passe d'une main à l'autre. Si c'est ça votre vocation, faites la bourse. J'ai pas à vous juger, je ne me permets pas de vous juger. Mais quelquefois, ça m'a fait de la peine de penser que j'avais des très chers frères qui, pendant toute la journée, étaient à la bourse de Berne, en Suisse, la capitale, et qui s'enrichissaient parce qu'ils étaient des saints, des présents. Alors, ils disaient que c'était le Seigneur qui leur donnait cette perspicacité. Puis le soir, ils venaient à la réunion de prière. Et puis... Alors, dans leur prière, ils prenaient une autre voix, une voix très onctueuse. Et puis, ils disaient, du sein de la faiblesse, nous regardons en haut. Ils récitaient un verset de cantique, comme ça, avec une voix chevrotante. Alors, si... Ça, c'est de la comédie. Mais pourtant, on croyait à toute la Bible. Puis on était très sévère sur les autres. Il fallait te séparer du monde. Mais la bourse, c'est pas le monde. Les affaires sont les affaires. Les choses de Dieu sont les choses de Dieu. J'ai entendu ça souvent. Vous pensez que c'est vrai, ça? Il y a une vie chrétienne qui se passe aussi dans le monde, mais il y a une manière chrétienne de vivre dans le monde. Et qui n'est pas comme les autres. Alors, laissez-vous impressionner vraiment par la parole de Dieu, et non seulement impressionner, mais gardez-la. Et souvenez-vous que dans les derniers jours, vous savez très bien comment on peut devenir riche, par la malhonnêteté, par le travail au noir, par tout ce que vous voulez. Tout est permis aujourd'hui. Hein. L'État est un voleur, c'est vrai en partie, hein. Mais puisque l'État vole, nous aussi nous pouvons voler. Et alors, on arrive forcément à créer une atmosphère qui vous amènera à la dictature. C'est absolument certain. Quand l'économie ne va plus, que tout le monde se permet de vivre n'importe comment, ou qu'on ne veut plus travailler, qu'il n'y a plus que les étrangers et les immigrants qu'on déteste du reste, mais qui viennent et qui, eux, parce qu'ils crèvent de faim s'ils ne travaillent pas, se mettent au travail et font les ouvrages que nous ne voulons plus faire, hein. C'est ce qui est arrivé aussi bien en France qu'ailleurs, alors, eh bien, nous en aurons les conséquences. Car voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, ils ont travaillé, et dont vous les avez frustrés. Ils ont frustré quoi? Les ouvriers de leur salaire. Eh bien, c'est un cri qui est monté aux oreilles du Seigneur. Ils n'étaient peut-être pas chrétiens, ces ouvriers, mais c'est aucune importance, le Seigneur aime les non-chrétiens. Il aime ceux que vous appelez encore des païens. Et il voudrait aussi leur bien, parce qu'il fait du bien aussi aux païens. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il donne sa pluie à tous. Et si même des païens ont un peu de joie, ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui leur donne la nourriture et la joie. C'est ce que Paul prêchait. Alors, soyons des authentiques chrétiens, parce que justement nous aurons entendu cela, le cri des ouvriers qui ont été frustrés de leur salaire. C'est pourquoi je dis, donnez d'abord un salaire équitable à ceux qui travaillent pour vous, même si vous devez y donner moins dans l'offrande de l'Église. Et j'ai écrit à un de mes amis chrétiens qui me parlait de son fils et des longues études qu'il devait faire et puis de la tentation de son fils de vivre avec une fille. Que voulez-vous, dans l'Écriture, on se mariait jeune. Mais maintenant, si on vous dit, tu ne pourras pas te marier avant 28 ans, hein, parce qu'il faut que tu aies fini tes études, comment voulez-vous que dans l'atmosphère actuelle des universités, ils ne cohabitent pas avec une fille? Surtout qu'il y a des filles hein, qui sont des drôles de chasseuses, excusez-moi, et qui en veulent un, puis surtout quelqu'un de sérieux. Alors, je connais un gars très sérieux, et puis, voilà, ben, il est de chair, lui aussi. Puis il disait à son père, mais vous avez des idées un peu arriérées, maintenant les temps ont changé, pourquoi est-ce que je ne vivrais pas comme cela? Alors le père catastrophé me téléphone, qu'est-ce que tu penses, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut lui dire, nous avons des idées très précises, et moi je les avais aussi. Pour mon Jean-Bernard, je me disais, quand il aura fini ses études, il pourra penser au mariage. Mais voilà que sa mère est reprise.